Chapitre 18. Le souffle court, au bord de l'épuisement, Callan dut reculer jusqu'au buisson d'épineux et le traverser en se tortillant pour éviter de se blesser. Le coup d'épée, très précis, avait manqué ses côtes d'un pouce. Désireuse de continuer le combat jusqu'à l'épuisement, la mère inquisitrice n'accorda aucune attention aux ronces qui déchiraient son pantalon. Elle sentit les veines de son cou pulser follement, mais ne s'affola pas. Il lui restait un peu de force. Son adversaire continua d'attaquer, la poussant au-delà d'une arête rocheuse très basse, puis dans un bosquet d'épicéas. Les feuilles mortes que soulevaient leurs bottes tourbillonnaient dans l'air comme des nuages miniatures colorés de jaune, d'orange et d'ocre. Au milieu des genévriers qui poussaient un peu partout, la jeune femme avait l'impression de ferrailler au cœur d'un arc-en-ciel qui se serait écrasé sur le sol pour exploser en une multitude de fragments. Richard frappa une nouvelle fois. Callan poussa un petit cri, mais parvint à parer une botte vicieuse. Sans se décourager, le sourcier repassa à l'attaque. Callan céda encore du terrain. En reculant, elle bondit juste à temps pour éviter de se prendre les pieds dans un entrelac de racines au pied d'un grand épicéa. Perdre l'équilibre serait une erreur fatale. Si elle tombait, Richard l'embrocherait la seconde d'après. Elle jeta un coup d'œil sur sa gauche, où se dressait une muraille rocheuse assez haute à la surface couverte de longues traînées de mousse cotonneuse. De l'autre côté, le bord de la corniche décrivait un arc de cercle pour venir rejoindre le mur de pierre. Quand elle serait coincée au fond de ce cul-de-sac, ce qui ne tarderait plus, Kala n'aurait plus que deux solutions, escalader la muraille ou descendre dans le ravin. Elle para un nouveau coup, contre-attaqua et parvint déchaînée à faire reculer Richard d'une dizaine de pas. Après une série d'esquives presque nonchalantes, il repassa à l'offensive et regagna largement plus que le terrain qu'il venait de céder. De nouveau réduite à se défendre, l'inquisitrice recula encore, consciente que cette tactique n'avait pas un grand avenir. Sur une branche morte d'un sapin baumier à quelques pas de là, un écureuil roux, les poils de ses oreilles déjà très touffus en prévision de l'hiver, se régalait de la mousse marron qui prospérait sur l'écorce. Exhibant fièrement son ventre blanc, il grignotait lentement le savoureux lichen qu'il recueillait entre ses minuscules pattes. Tel le spectateur d'un tournoi de chevaliers, il continuait paisiblement à manger tout en ne perdant pas une miette du spectacle. Du coin de l'œil, Callan regarda autour d'elle en quête d'une voie d'évasion. Si elle pouvait slalomer entre les arbres et contourner Richard, elle repartirait dans la direction d'où elle venait et ne risquerait plus d'être piégée. Bien sûr, le sourcier la poursuivrait, mais un petit répit lui permettrait peut-être de récupérer un peu de force. Chargeant comme un taureau furieux, Richard leva son arbre pour en finir et couper son adversaire en deux. Une ouverture, enfin. Il ne fallait pas la rater, car il n'y en aurait pas d'autre. Callan fit demi-tour, avança d'un pas et se fendit, visant le ventre de Richard. Surpris par cette attaque audacieuse, il ne put pas l'éviter. Lâchant son épée, il plaqua les deux mains sur son abdomen, tituba un instant, bascula en arrière et s'écroula dans un lit de fougères. Soulagé par l'impact, des feuilles mortes s'envolèrent puis retombèrent sur lui comme pour lui faire un linceul végétal. Debout devant le vaincu, Callan reprit péniblement son souffle. Épuisée, elle se laissa tomber à genoux puis se coucha sur le cadavre de son adversaire. Autour d'eux, les feuilles des fougères couleur caramel étaient repliées sur elles-mêmes, comme si elles avaient voulu, en fermant le poing, protester contre le destin qui les forçait à mourir en cette saison. Non loin de là, un grand érable qui n'avait pas encore perdu toutes ses feuilles, nul n'aurait pu savoir par quel miracle, évoquait un noble et vieux souverain drapé dans un manteau ocre un peu plissé. À la fin de l'automne, les bois embaumaient, et Callan aurait pu passer des heures à s'emplir les poumons de leur senteur. « Kara ! » cria-t-elle. Grisée par son succès, elle posa la main gauche sur la poitrine de son mari, se souleva un peu et poussa un hurlement de triomphe.
« Kara ! J'ai tué Richard !»
Couchée sur le ventre au bord du ravin, la mort de Sith ne sembla pas remuée par cette nouvelle.
« Je l'ai tué. Tu n'as pas entendu? Et n'as-tu donc rien vu ?»«
Oui, »
marmonna Kara.
« Vous avez éventré le seigneur Ral ?»«
Pas du tout, »
lâcha Richard entre ses dents, car il retenait toujours son souffle pour mieux jouer les cadavres.
Callan lui abattit sur l'épaule son épée d'entraînement taillée dans une fine branche de saule. « Tricheur, je t'ai eu cette fois. Redmore, voilà ce que tu es. »
« Non. Avec une vraie lame, ça aurait été une égratignure. Rien de plus. » Richard plaqua la pointe de sa fausse épée contre le flanc de sa compagne.
« Tu es tombé dans mon piège. À présent, c'est moi qui te tiens à la pointe de mon arme. Rends-toi ou meurs, femme. »
« Plutôt périr que d'être capturé par un bandit comme toi, »
répondit Callan avant d'éclater de rire. Une idée assez judicieuse, car elle n'avait pas toujours repris complètement son souffle. Un petit handicap qui ne l'empêcha pas d'enfoncer plusieurs fois dans les côtes de Richard son épée de bois. Quand elle estima être venue à bout de son ravisseur potentiel, elle se laissa rouler sur le côté et tourna la tête vers la mort de Sith.
« Tu as vu? Ce coup-là, je ne l'ai pas raté. J'ai gagné. »«
Oui, oui, »
grommela Kara, les yeux tournés vers le ravin.
« Vous avez abattu le seigneur Hal. Tant mieux pour vous. »
Elle daigna enfin regarder le couple.
« Celui-ci est pour moi, n'est-ce pas, seigneur Hal? Vous aviez promis. »
« C'est vrai, et je tiendrai parole. »«
Parfait. Il est rudement gros. »«
Callan, » dit le sourcier avec un petit sourire,
« je t'ai laissé me tuer. »«
C'est faux. Cette fois, je t'ai battu. »
Elle frappa de nouveau son mari avec l'épée factice, puis s'immobilisa et plissa le front.
« Tu as prétendu n'être pas mort. Une simple égratignure, disais-tu. Mais tu admets enfin la vérité. »«
Je t'ai laissé. » Histoire de lui clouer le bec, Callan embrassa son époux. Devant ce spectacle, Kara eut une moue désapprobatrice et tourna la tête vers le ravin.
« Ils s'en vont !»
cria-t-elle en se levant d'un bond.
« Venez avant qu'on me vole ma proie !»«
Kara, personne ne te la volera, en tout cas pas tout de suite. »«
Vous aviez promis. Je ne veux pas avoir fait tout ce chemin pour rien. Dépêchez-vous !»«
Très bien, très bien !»
fit alors Richard alors que Callan s'écartait de lui. Il tendit une main pour l'aider à se relever, et elle en profita pour l'embrocher une nouvelle fois.
« Je t'ai encore eu, seigneur Hal. Tu te ramollis, on dirait. »
Richard se contenta de sourire. Quand sa femme eut accepté sa main secourable et se fut relevée, il l'enlaça brièvement, puis déclara avec le plus grand sérieux.
« Du bon travail, mère inquisitrice. Vous m'avez bel et bien abattu, et je suis fier de vous. »
Callan s'efforça d'afficher un sourire serein, celui qui sied à un vainqueur potentiel, mais elle sentit ses lèvres s'étirer tellement qu'elle redouta d'avoir plutôt produit une joyeuse grimace d'enfant. Richard ramassa son sac à dos et l'accrocha à ses épaules. Rejoignant Kara, il s'engagea sans hésiter sur la pente abrupte qui menait au pied de la montagne. Après avoir récupéré son manteau de fourrure, une magnifique peau de loup, Callan suivit d'un pas décidé son mari et la mort de Sith, qui avait déjà pris un peu d'avance sur elle.
« Fais attention, » dit Richard à Kara. « Avec les feuilles qui couvrent le sol, on ne voit pas bien les trous et les fissures dans la roche. »«
Je sais, je sais. Seigneur Hal, combien de fois allez-vous me répéter ça ?»
Richard surveillait sans cesse ses deux compagnes. À chaque excursion, il leur rappelait comment avancer sur un terrain accidenté et énumérait les dangers éventuels. Dès les premières promenades, Callan avait noté que son mari se déplaçait avec une tranquille fluidité. Encline à vadrouiller, Kara avait tendance à faire des détours pour sauter de rocher en rocher ou marcher le long d'une crête. On eût dit une enfant turbulente. Ayant passé la plus grande partie de sa vie entre les murs du palais du peuple, elle n'avait pas conscience que marcher dans les bois et en montagne n'était pas seulement un exercice amusant. Des risques existaient et ils pouvaient être mortels. Richard s'était pourtant montré d'une patience exemplaire. Choisis l'endroit où tu poseras tes pieds afin d'avancer autant que possible sans te déséquilibrer d'un côté ou de l'autre. Sauf si c'est nécessaire, ne descends jamais, par exemple, dans un ravin, parce qu'il te faudra remonter tôt ou tard et que c'est épuisant. Pareillement, évite de gravir une pente pour simplement admirer la vue, parce que descendre est ce qui fait le plus mal aux mollets. Devant un obstacle, évite de sauter quand tu peux simplement l'enjamber. Kara jugeait trop difficile de penser en même temps à tout ça. En gambadant comme elle le faisait, lui avait dit Richard, elle dépensait deux fois plus d'énergie pour parcourir la même distance que lui. Si elle réfléchissait en marchant, elle développerait vite des réflexes et elle n'aurait bientôt plus besoin de se creuser la cervelle à chaque pas. Quand elle avait découvert que ses mollets et les muscles de ses cuisses lui faisaient beaucoup moins mal si elle suivait les conseils de son seigneur, elle était devenue une élève attentive qui posait des questions intelligentes au lieu de contester tout ce qu'on lui disait. Enfin, la plupart du temps. Aujourd'hui, pour négocier la pente, elle utilisait un bâton histoire de sonder le terrain et de repérer les trous dissimulés par des feuilles mortes. Richard n'avait rien dit, mais il souriait chaque fois que la mort de Sid détectait une irrégularité du terrain avec son bâton au lieu de marcher dessus et de risquer une entorse ou une chute. Ouvrir un chemin sur une pente si raide n'avait rien d'une promenade de santé. Souvent, un sentier séduisant se terminait en cul-de-sac et il fallait revenir sur ses pas. Dans les collines et surtout en terrain presque plat, les animaux se frayaient des pistes souvent très utiles. Au milieu d'une vallée, un sentier agréable qui s'arrêtait soudain ne posait pas de problème, puisqu'on pouvait toujours traverser les broussailles pour retrouver un espace dégagé. À 3000 pieds d'altitude, sur le flanc rocheux d'une montagne, la moindre erreur pouvait se payer très cher. Mais souvent, surtout quand la nuit approchait, les voyageurs peu expérimentés prenaient des risques insensés pour s'épargner un retour en arrière pénible. Parfois, c'était la dernière bévue qu'ils commettaient de leur vivant. Selon Richard, résister à l'envie d'arriver plus vite au pied d'une pente, de rentrer chez soi ou de trouver un endroit où camper, exigeait un gros effort d'analyse et de volonté. « Céder à ses pulsions conduit souvent à la mort », répétait-il volontiers. « Pour revenir sain et sauf à la maison, il faut utiliser son cerveau. »«
Ne passez pas par là !» cria soudain Kara. « J'ai testé le sol avec mon bâton, il y a un grand trou. »«
Merci beaucoup, noble guide forestier !» railla Richard. Pensait-elle vraiment qu'il se serait cassé la figure si elle ne l'avait pas prévenu? Ils progressèrent assez vite grâce aux nombreuses prises qu'offraient tout au long du chemin les arbustes et les racines affleurantes. Au pied de la montagne, plus très loin devant eux, les contreforts s'enfonçaient dans un ravin envahi de végétation. Au-delà, il fallait négocier une pente assez raide, semée de pins éternellement verts, qui côtoyaient des chênes, des arables et des bouleaux déjà privés de leur feuillage. En général, les chênes conservaient leurs feuilles jusqu'au début de l'hiver, certains parvenant même à les garder pendant toute la mauvaise saison. En montagne, les vents glacés et les orages précoces les dépouillaient beaucoup plus tôt de leur parure.
« Là !»
lança Kara, un bras tendu. Elle sauta sur une saillie rocheuse pour mieux voir.
« En face, juste à l'endroit que je montre !»
Richard mit une main en visière pour ne pas être ébloui par le soleil, puis il sonda le flanc de la montagne devant eux.
« J'ai vu, oui. Un endroit très désagréable où mourir. »«
Parce que tu penses qu'il en existe de plaisant ?»
demanda Callan en resserrant autour d'elle les pans de son manteau. Le vent s'était levé et il commençait à faire plutôt frisquer.
« J'en doute, pour être honnête, » répondit Richard.
À mi-chemin de la pente que désigna Kara, la forêt disparaissait brutalement. On appelait cet endroit le « bois crochu ». Et au-dessus, où aucun arbre ne poussait, le flanc de la montagne n'était plus qu'une vaste étendue verticale de roches nues et d'éboulis particulièrement traîtres. À une altitude impressionnante, des neiges éternelles couronnaient le pic qui semblait tutoyer les nuages. Dans le bois crochu constamment battu par le vent ou la pluie, les arbres ratatinés faisaient peine à voir. Comme des sentinelles, ils montaient la garde entre la forêt et la zone désolée où les mousses elles-mêmes avaient du mal à survivre.
« Ne traînons pas ici, » dit Richard. Il tendit un bras vers la droite. « Je ne voudrais pas être surpris par la nuit dans ce coin. »
Callan admira un instant la vue. Le paysage était grandiose, mais de gros nuages dérivaient au-dessus des vallées et des pics, et le mauvais temps en montagne n'était pas à prendre à la légère. Traverser le bois crochu dans le brouillard ou sous la pluie n'enthousiasmait pas la mère inquisitrice, mais elle ne devait pas le montrer parce que Kara et Richard la dévisageaient, attendant visiblement qu'elle dise quelque chose.
« Je vais très bien, alors partons et finissons-en. Après le bois crochu, nous pourrons redescendre dans la vallée, et je suis sûr que Richard nous trouvera un gentil pain compagnon qui nous permettra de passer la nuit au sec. Je rêve d'être assise devant un petit feu en sirotant une bonne infusion. »
« Je n'ai rien contre cette idée, »
dit Kara en se soufflant sur les doigts pour les réchauffer. Le soir même de leur rencontre, dans la forêt de Heartland, Richard avait fait camper Callan sous un pin compagnon. La jeune femme n'ayant jamais vu d'arbre pareil, elle continuait à s'émerveiller chaque fois qu'elle en découvrait un, immense silhouette qui dominait celle de tous les autres végétaux environnants. Les vénérables de ce type faisaient d'incomparables refuges pour les voyageurs. Les branches basses d'un pin compagnon pendant jusqu'au sol, elles formaient une sorte de niche naturelle. À l'intérieur, sous un épais canevas d'aiguilles, on était à l'abri du vent et de la pluie. Les pins étant difficilement inflammables à cause des propriétés physiques de leur écorce, Richard lui-même ne savait pas exactement lesquelles, il était impossible, à condition de rester prudent, d'allumer un petit feu de camp. Lors de leur randonnée, Richard, Callan et Kara passaient très souvent la nuit sous un pin compagnon. Ces moments privilégiés, dans un lieu coupé de tout, les incitaient à se détendre, à parler, à méditer, à se raconter des histoires, certaines les faisant rire aux éclats, et d'autres leur nouant la gorge. Après que l'inquisitrice eut assuré qu'elle était d'attaque, Richard et Kara se remirent en route. Même si elle était rétablie désormais, il la laissait toujours décider quand il fallait négocier un passage difficile. Et là, avant de trouver un abri, il fallait atteindre le pied de la montagne, traverser le ravin, monter jusqu'au bois crochu, puis redescendre jusqu'à la vallée la plus proche. La convalescence de Callan lui avait paru interminable. Elle savait bien entendu que ses blessures seraient longues à guérir, et en restant alitée si longtemps, elle se doutait que ses muscles finiraient par fondre, d'autant plus qu'elle avait été un long moment incapable de s'alimenter normalement. De plus en plus maigre et faiblarde, même si son état général s'améliorait objectivement, elle avait peu à peu glissé dans une terrible dépression. Au début, Callan n'avait pas vraiment mesuré la gravité de l'épreuve qu'elle devrait s'imposer pour redevenir elle-même. Richard et Kara tentaient de l'encourager, mais cela restait trop superficiel pour être efficace parce qu'ils ne comprenaient pas comment on se sentait quand on avait perdu l'intégralité de ses moyens physiques. Et il n'y avait pas que cela. Avec ses jambes décharnées et ses genoux osseux, pour ne prendre qu'un exemple, elle se sentait atrocement laide. Pour la distraire, Richard sculptait de petits animaux. Des faucons, des renards, des loutres, des canards et même des tamias. Elle ne leur accordait qu'un vague intérêt, comme si plus rien ne pouvait l'atteindre. Touchant le fond du désespoir, elle avait souvent regretté de ne pas avoir péri avec l'enfant qu'elle portait. Sa vie était devenue une insipide bouillie. Pendant des semaines, avec les quatre murs de sa chambre pour seul horizon, elle avait oscillé entre la douleur et un ennui qui semblait plus terrible que la mort. Le goût amer de la décoction de mille feuilles qu'elle devait ingurgiter plusieurs fois par jour avait fini par lui donner la nausée, et l'odeur entêtante des cataplasmes à base de plantes la révulsait. Quand elle s'était rebellée, annonçant qu'elle ne voulait plus de l'horrible infusion, elle avait eu de temps en temps droit à du tilleul, un peu moins amer, mais pas aussi efficace contre la douleur, même s'il l'aidait à dormir. Mâcher quelques feuilles de scutellaire avait un effet spectaculaire sur ses maux de tête, mais cela lui laissait dans la bouche un goût immonde qui la torturait pendant des heures. Parfois, pour varier un peu, Richard et Kara recouraient à de la teinture de passiflore, une horreur, dont ils lui déposaient quelques gouttes sur la langue. Fatigué d'avaler d'immondes infusions, Callan prétendait souvent que tout allait bien, histoire de couper à la punition. La fenêtre de sa chambre n'étant pas très grande, la convalescente, au plus fort de l'été, avait plus d'une fois redouté de mourir de chaud. Et à force de voir seulement un carré de ciel et la cime de quelques arbres sur la toile de fond d'une lointaine montagne aux contours écrasants, Callan s'était demandé si le monde extérieur existait vraiment. Richard proposait souvent de la porter dehors, mais elle l'implorait de n'en rien faire, parce que souffrir le martyr pour prendre un peu d'air frais ne lui disait rien. Bouleversée à la seule idée d'ajouter à son calvaire, son mari n'insistait jamais beaucoup. Confinée volontairement dans sa chambre, Callan avait regardé défiler devant sa fenêtre une alternance de cieux radieux et de gros nuages noirs. Les jours passaient, elle guérissait lentement, et s'agaçait de plus en plus de devoir subir ce qu'elle nommait son été perdu. Un jour, alors qu'elle mourait de soif, elle s'était aperçue que Richard avait oublié de laisser un gobelet d'eau fraîche sur sa table de nuit. Bien entendu, dès qu'elle l'avait appelé, il s'était précipité dans la chambre avec une outre et le fameux gobelet qu'il avait rempli devant elle. Mais il avait posé le tout sur le rebord de la fenêtre avant de ressortir en trombe, parce qu'il devait aller voir avec Kara si des poissons avaient mordu à leur ligne, avait-il marmonné par-dessus son épaule. Callan avait bien tenté de lui demander d'approcher l'eau d'elle, mais il ne l'avait pas entendu. Furieuse, elle avait pesté un long moment contre son mari. Comment pouvait-il être si négligent alors qu'il faisait une chaleur écrasante très inhabituelle pour une fin d'été? La bouche sèche et le cœur serré, l'inquisitrice avait regardé avec désespoir l'outre si proche d'elle et pourtant inaccessible. Des larmes aux yeux, elle avait gémi de détresse, puis tapé du poing sur son lit. Détournant la tête pour ne plus voir l'outre, elle avait fermé les yeux, décidée à dormir un peu afin d'oublier sa soif. Quand elle se réveillerait, Richard et Cara seraient sûrement de retour et elle obtiendrait enfin à boire. Son mari, lui, se ferait passer un savon. Dehors, un oiseau s'était mis à pousser des trilles lancinants. On eût dit la voix aiguë d'une petite fille répétant inlassablement « Oui, mi, oui, mi, oui, mi ». Et quand un oiseau de ce type donnait un concert, il pouvait continuer pendant des heures. Très vite, Cala ne put plus penser qu'à ce son horripilant et à sa soif. Avec la sérénade agaçante de l'oiseau, comment aurait-elle pu s'endormir? Maudit soit Richard, qui l'avait abandonnée alors qu'elle mourait de soif, la laissant de plus aux prises avec une insupportable pollution sonore. Très énervée par l'oiseau, elle s'était plusieurs fois laissée aller à lui répondre « Tais-toi, tais-toi, tais-toi » sans le moindre résultat, bien entendu. Plus énervant encore, elle ne parvenait pas à détourner le regard de l'outre et du gobelet qui semblaient la narguer sur leur rebord de fenêtre. Même si la chambre n'était pas très grande, Callan ne pouvait pas marcher. Pourquoi Richard avait-il agi ainsi? Mais tout bien réfléchi, si elle s'asseyait au bord du lit, elle aurait peut-être une chance en tendant son bras droit. Il faisait tellement chaud. Soulevant sa chemise de nuit, la jeune femme l'avait secouée vivement pour se ventiler un peu, là encore sans grand succès. Avec un grognement furieux, elle avait écarté le drap, révélant ses jambes squelettiques. Une vision qui la révulsait. Pourquoi Richard lui imposait-il ce calvaire? Oui, quelle mouche l'avait piqué? Dès son retour, elle lui dirait sa façon de penser. En haletant, Callan avait fait glisser ses jambes sur le côté du lit. Cédant de la souplesse de son confortable matelas, bourré d'un astucieux mélange d'herbes sèches et de plumes, elle avait forcé sur son bras droit pour se redresser. La première fois qu'elle s'asseyait seule. Oui, le plan de Richard lui semblait clair tout d'un coup. Mais pas judicieux du tout et même un peu cruel. Il utilisait la ruse pour la forcer à se lever alors qu'elle n'était pas prête. Dans son état, ça pouvait être dangereux, car il lui fallait encore des semaines de lit, voire des mois, avant d'être rétablie. Même si elle ne suintait plus, ses blessures n'étaient pas encore cicatrisées, et ses multiples fractures pouvaient... Torturée par la soif, Callan s'était péniblement traînée jusqu'au bout du lit. Hélas, même en se tenant d'une main au panneau de pied et en se penchant au maximum, la fenêtre restait encore trop loin. Pour boire, elle allait devoir se lever. Et Richard lui paierait ça, elle en faisait son affaire. Un jour, quelques semaines plus tôt, après qu'elle eût appelé un long moment sans qu'il l'entende, son mari lui avait laissé un long bâton, assez léger mais rigide, pour qu'elle puisse frapper à la cloison ou à la porte quand elle avait besoin d'aide. S'emparant de sa canne improvisée, Callan avait pris appui dessus, basculé vers l'avant et laissé prudemment glisser ses pieds nus vers le plancher dont le contact lui avait paru étrangement frais comparé à l'étuve qu'était devenu son lit. Dès que tout son poids avait reposé sur ses jambes maigrichonnes, elle n'avait pas pu s'empêcher de crier de douleur. Tentée de se laisser retomber sur le lit, elle s'était aperçue que la souffrance était plus supportable qu'elle l'aurait cru. Elle avait mal, bien entendu, mais ce n'était pas si terrible que ça. Une déception en un sens. Si elle avait eu très mal, elle aurait forcé Richard à se mettre à genoux pour implorer son pardon. Avec l'aide du bâton, Callan avait fait son premier pas depuis des mois. Un instant grisée par ce succès, elle s'était vite avisée qu'elle n'était pas au bout de ses peines. Ses jambes consentaient à bouger, certes, mais pas nécessairement dans le sens qu'elle désirait. On eût dit qu'elle ne recevait plus les ordres de son cerveau ou qu'elle les interprétait pour le moins très librement. Au point où elle en était, Callan refusait d'échouer. Coûte que coûte, il fallait qu'elle atteigne la fenêtre. Si elle s'écroulait après avoir bu, Richard la trouverait gisant sur le plancher et ça serait bien fait pour lui. Oui, elle voyait déjà la scène d'ici. Après, il y réfléchirait à deux fois avant d'imaginer des plans tordus pour la forcer à se lever. Son équilibre assuré par le bâton, Callan avait avancé lentement vers la fenêtre. Si elle tombait maintenant, Richard serait tout aussi traumatisé en la découvrant, mais elle serait condamnée à mourir de soif jusqu'au retour de ses gardes malades. Cela dit, une pauvre convalescente recroquevillée sur le plancher, les lèvres parcheminées par la déshydratation, le traumatiserait encore plus, et la culpabilité le rongerait jusqu'à la fin de sa vie, et même après, si c'était possible. Souhaitant presque tomber avant d'atteindre son but, Callan était quand même arrivé devant la fenêtre. Après s'être accrochée au rebord, elle avait repris son souffle pendant quelques secondes, puis s'était emparée du gobelet et l'avait vidé d'un trait. Enfin désaltérée, elle avait reposé le gobelet sur le rebord de la fenêtre et jeté un petit coup d'œil dehors avant de se lancer dans le périlleux voyage de retour vers son lit. Assis sur une souche, les bras autour des genoux, Richard la regardait avec un grand sourire idiot.
« Bonjour, toi !»
avait-il lancé.
« Eh bien, on est debout, semble-t-il !»
avait marmonné Kara, confortablement installée non loin de son seigneur. Callan aurait voulu agonir son mari d'injures. À sa grande surprise, elle avait dû mobiliser toute sa volonté pour ne pas éclater de rire. Quelle idiote elle était! Pourquoi n'avait-elle pas essayé de se lever seule des jours plus tôt? Des larmes aux yeux, elle avait admiré un moment les arbres au feuillage encore vert, les montagnes majestueuses et le ciel, pas un carré de ciel, mais la voûte céleste dans toute son immensité, où des nuages cotonneux dérivaient lentement. Que ce paysage était beau! Comment avait-elle pu s'en priver pendant si longtemps? Elle aurait dû brûler d'envie que Richard la porte à l'extérieur.
« Tu as conscience d'avoir commis une grosse erreur ?»
avait dit Richard.
« Pardon ? Si tu ne t'étais pas levé, nous aurions continué à te chouchouter, au moins pendant un temps. Maintenant, poser des choses hors de ta portée et te laisser te débrouiller sera notre occupation favorite. »
Si reconnaissante qu'elle ait été intérieurement, Callan n'avait eu aucune envie de remercier à haute voix son mari. Mais savoir qu'il était prêt à braver sa colère pour l'aider lui avait fait chaud au cœur.
« On lui dit où est la table, seigneur Rale ?»
avait lancé Kara.
« Inutile. Dès qu'elle aura faim, elle sortira de la chambre et elle la trouvera. »
Callan avait repris le gobelet pour le jeter sur Richard avec l'espoir de lui faire ravaler son sourire béat. Bien entendu, il avait attrapé le projectile au vol.
« Content de voir que ton bras va bien, »
avait-il dit.
« Tu vas pouvoir couper ton pain toute seule ? Non, pas de protestation, ce n'est que justice. »
Kara l'a amoureusement préparé, et c'est le moins que tu puisses faire pour l'en remercier.
Kara sait faire du pain? Le seigneur Rale me l'a appris. J'en voulais avec mes ragoûts, et il ne m'a pas laissé le choix. Soit je m'en occupais, soit je m'en passais. Mais c'est très facile en réalité. Comme marcher jusqu'à la fenêtre. Ayant un meilleur caractère que vous, je ne lui ai rien jeté à la figure ce jour-là.
Kara n'avait pu s'empêcher de sourire. Connaissant la mort de Sith, manipuler de la pâte avait dû être plus difficile pour elle que l'exploit de traverser la chambre. Quant au meilleur caractère, c'était une affirmation gratuite.
Et elle aurait donné cher pour avoir assisté aux leçons de boulangerie dispensées par Richard à son irascible garde du corps. « Richard, rends-moi mon gobelet et cours pêcher un beau poisson pour ce soir. J'ai faim et très envie d'une truite, une grosse truite avec une montagne de pain. »
« Je veux bien faire ça pour toi, à condition que tu trouves la table. »
Callan l'avait trouvée, et elle ne s'était plus jamais autorisée à manger au lit. Au début, marcher lui faisait si mal qu'elle se recouchait à toute heure de la journée. À ces moments-là, Kara venait lui brosser les cheveux, histoire de ne pas la laisser seule. Encore très faible, Callan ne parvenait pas à se déplacer longtemps sans aide, et le moindre geste, y compris le rituel de la brosse quand elle s'y adonnait seule, lui valait de longues minutes d'épuisement. Marcher jusqu'à la table lui semblait une très longue randonnée, et s'aventurer plus loin était longtemps resté hors de question. Très compatissant, Richard et Kara ne lui ménageaient pas leurs encouragements, mais il ne manquait pas une occasion de la pousser à en faire toujours un peu plus. Heureuse d'avoir échappé à son lit, Callan parvenait de plus en plus souvent à oublier la douleur. Le monde était redevenu merveilleux, et il lui tardait de l'explorer. Cerise sur le gâteau, elle n'avait plus besoin de la cuvette. Si on lui avait dit, avant ses malheurs, qu'aller aux toilettes toute seule pouvait être une petite fête. Sans le claironner sur tous les toits, Kara n'en était pas mécontente non plus. Même si elle aimait la douillette cabane que Richard et Kara lui avaient construite, en sortir donnait à Callan le sentiment de s'être enfin évadé d'un sinistre donjon. Craignant d'avoir mal, elle avait toujours refusé que Richard la porte dehors. La preuve que son état physique avait altéré son jugement. En même temps que de tout un été, l'épreuve qu'elle venait de traverser l'avait privée, eh bien, d'elle-même, tout simplement. Et maintenant, elle se retrouvait enfin. Quand elle s'était aventurée dehors, elle avait découvert que ce qu'on voyait de sa fenêtre ne rendait pas vraiment grâce à l'extraordinaire beauté du paysage. Autour de la cabane, des pics couronnés de neige semblaient veiller sur les trois exilés volontaires. Très simple, avec deux chambres séparées par une pièce commune, la maisonnette se dressait au bord d'une prairie verdoyante, semée de fleurs des champs. Même s'ils étaient arrivés un peu plus tard dans la saison, Richard avait aménagé un petit jardin potager, juste devant la fenêtre de Kara, où il faisait pousser des légumes et des herbes aromatiques. Derrière la cabane, un bosquet de grands pins blancs la protégeait du vent qui soufflait parfois avec une étonnante violence. Pour passer le temps tandis qu'il restait au chevet de Callan, la regardant dormir ou lui racontant des histoires, Richard avait continué à sculpter des animaux. Mais après qu'elle se fût levée, il avait commencé à réaliser des statuettes d'êtres humains. Un jour, il lui avait offert une œuvre magnifique. « Pour célébrer dignement, avait-il dit, le retour dans le monde de la femme qu'il aimait. » Stupéfié par le réalisme et le pouvoir d'évocation de la statuette, Callan s'était écrié que le don avait dû guider la main de Richard. Comme de juste, il n'avait rien voulu entendre. Des légions de sculpteurs produisent des œuvres magnifiques sans avoir besoin de la magie. Le don n'a rien à voir là-dedans. Callan n'en avait pas démordu. Certains créateurs, elle le savait, avaient le don et ils pouvaient invoquer la magie par l'intermédiaire de leur art. Richard lui parlait parfois avec une étrange mélancolie des merveilles qu'il avait découvertes au palais du peuple, en Dara, où il était prisonnier de Dena. Élevé à Heartland, il n'avait jamais vu de statue de marbre, surtout pas aussi grande et ciselée par des artistes de génie. Ses œuvres grandioses avaient élargi son horizon, jusque-là limité aux frontières de sa contrée natale, et il n'était pas prêt de les oublier. À part lui, qui d'autre se serait souvenu avec émotion du décor de l'endroit où on l'avait impitoyablement torturé? En théorie, il avait raison. L'art pouvait exister indépendamment de la magie. Mais n'avait-il pas été capturé par Dena à cause d'un sort dessiné par un peintre? Réputé être un langage universel, pourquoi l'art n'aurait-il pas été également un des moyens d'expression de la sorcellerie? Callan avait un peu insisté, puis elle était passée à autre chose. Richard refusait de la croire et il n'y avait rien à faire. Pourtant, en l'absence de tout exutoire, ne semblait-il pas logique que son pouvoir se manifeste de la sorte? La magie trouvait toujours une façon de s'extérioriser, et les statuettes du sorcier avaient bien quelque chose de surnaturel. Sculptées dans un rondin de noyer aux riches odeurs de sous-bois, la femme qu'il avait baptisée Bravoure était d'une bouleversante beauté. Aucun détail ne manquait, et les courbes de son corps sous les plis de sa robe impeccablement ciselée étaient d'une telle précision qu'on s'attendait à la voir respirer. Bref, elle paraissait vivante. Comment Richard avait-il créé un chef-d'œuvre pareil? Sa robe gonflée par le vent, Bravoure avait la tête inclinée en arrière et les poings plaqués sur les hanches. Le torse bombé, le dos arqué, elle semblait résister de toutes ses forces au pouvoir invisible qui tentait en vain de lui faire courber l'échine. Si une œuvre d'art devait jamais être le symbole du courage et de la détermination, c'était celle-là et aucune autre. Bravoure n'était pas faite à l'image de Callan, mais sa manière de lutter, avec une tension intérieure que l'inquisitrice connaissait si bien, aurait pu en faire sa sœur d'élection. En la voyant, la femme de Richard éprouvait une envie dévorante d'aller mieux, de vivre pleinement et surtout, de redevenir forte et indépendante. Et tout cela, elle l'aurait juré, reflétait les intentions de Richard pendant qu'il sculptait. Ce n'était pas de la magie, selon lui. Dans ce cas, de quoi s'agissait-il? Toute sa vie, Callan avait vécu ou séjourné dans des palais décorés par les plus grands artistes de l'univers. Aucune œuvre ne lui avait ainsi coupé le souffle.
La noblesse de bravoure et la force intérieure dont elle était dotée, si incroyable que cela puisse paraître, dépassait de très loin tout ce que les peintres et les sculpteurs avaient jamais offert au monde. Devant tant de puissance et de vitalité, Callan, la gorge nouée, n'avait rien pu dire. Des larmes aux yeux, elle s'était simplement jetée dans les bras de Richard.